Europe 1, le 22-22-30, Romain Oquet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos, il est 22h. Merci d'avoir choisi Europe 1.
On peut s'apercevoir que partout en France aujourd'hui, un policier n'est à l'abri nulle part. Et là aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est de l'incompréhension, c'est terrible, c'est horrible.
Nouveau drame dans les rangs de la police. À Avignon, un fonctionnaire est mort ce soir, tué par balle lors d'une intervention anti-drogue. Le tireur a pris la fuite. Le récit de Marion Dubreuil. Dans ce journal, nous serons à Mérignac, en Gironde, où les habitants ont rendu hommage à Shaïness. La jeune femme a été brûlée vive par son ex-compagnon hier. C'est le 39e féminicide depuis le début de l'année. Un bac philo revu et corrigé. Le ministre de l'Éducation nationale annonce ce soir de nouvelles modalités d'examen. Le gouvernement qui note aussi une nette amélioration de la situation sanitaire. Nous ferons un point sur les chiffres avec Victor Dolande. Il y a 2 siècles, Napoléon rendait son dernier souffle sur l'île de Sainte-Hélène. La France commémore le bicentenaire de la mort de l'empereur. Figure historique, controversée aussi, et un exercice d'équilibrisme pour Emmanuel Macron. Un homme sociable, drôle, jovial. À Chambéry, le témoignage des proches d'Arthur Noyer déstabilise la défense de Nordal-Lelandais pour ce 3e jour de procès. Et puis, l'inquiétante disparition d'un journaliste français au Mali. Olivier Dubois a été enlevé par un groupe djihadiste. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit Stanislas Gnoc-Château, le fondateur de la plateforme Doctolib, où les rendez-vous dédiés à la vaccination explosent, plus 50% en une semaine. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo. Demain, la journée sera très humide avec des pluies dans presque toutes les régions et même des coups de tonnerre, nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un policier est mort ce soir, tué par une série de balles tirées à bout portant dans le thorax. Il était en intervention dans le centre-ville d'Avignon. L'homme était âgé de 36 ans et père de 2 enfants. Le tireur a pris la fuite. Jean Castex dénonce un acte odieux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place dans la soirée. Marion Dubreuil, que sait-on des circonstances de ce meurtre ?
Eh bien, il est environ 18h30 lorsque l'équipage de police est appelé pour gérer un groupe qui perturbe le voisinage sur la voie publique. Sur place, les policiers assistent à une transaction de produits stupéfiants. Ils décident donc de contrôler plusieurs individus en vue notamment de leur interpellation. Et c'est à ce moment-là qu'un suspect sort son arme. Il tire à plusieurs reprises à bout portant dans le thorax d'un des policiers qui s'effondre. Le SAMU et les pompiers ont tenté de réanimer le policier sur place pendant plus d'une heure sans succès. Le tireur, lui, a immédiatement pris la fuite à trottinette. Il est toujours activement recherché. La PJ de Montpellier a été saisie de l'enquête.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Un drame qui touche forcément les rangs de la police et d'abord les collègues de ce policier. Vincent Datte est le secrétaire zonal adjoint Méditerranée pour Alternative Police CFDT.
Mon collègue a reçu 2 balles dans la poitrine. Une dans la poitrine, une dans l'abdomen. Et après plus d'une heure de réanimation par le SAMU sur place, est décédé. C'est bien entendu la colère qui nous étreint, puisque, encore une fois, on peut s'apercevoir que partout en France aujourd'hui, un policier n'est à l'abri nulle part. Malheureusement, nos collègues avignonnais, même si beaucoup d'entre eux ont fait la banlieue parisienne, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas le quotidien des collègues. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est de l'incompréhension, c'est terrible, c'est horrible. C'est un fonctionnaire qui était très apprécié de tout le monde, de la hiérarchie, de ses collègues de travail, un collègue qui était enjoué, c'était quelqu'un de génial, quoi. Beaucoup de collègues hors service viennent, bien entendu, pour soutenir les collègues qui étaient présents. Pour une ville comme Avignon, c'est terrible.
Vincent Datte pour Alternative Police CFDT, joint par Chloé Trillon pour Europe 1. C'est le 39e féminicide depuis le début de l'année et celui-ci est insoutenable. Shaïness est morte, brûlée vive par son ex-compagnon, un homme violent, déjà condamné et emprisonné pour des violences conjugales. Stéphane Place, vous étiez à Mérignac, en Gironde, devant la maison de la jeune femme, un pavillon qui a aussi été incendié. C'est là où se sont rassemblés des habitants pour un hommage en fin de journée.
Oui, un cortège d'environ 500 personnes, digne sous le choc des riverains, des familles, venues parfois avec un bouquet de fleurs, déposées ici devant la maison noircie par le feu, dans cette rue où cette femme de 31 ans a été tuée hier soir dans des conditions atroces. Alain Ziani est le maire de Mérignac.
Comment se peut-il qu'un homme soit capable non seulement de tuer, mais de tuer avec beaucoup de cruauté, de mettre son épouse à terre avec des coups de fusil, et une fois à terre, de la brûler vive. C'est quand même d'abord la tristesse. Tout à l'heure, j'étais avec des enfants, Il posait une question. Pourquoi nous ? Pourquoi nous ?
Et sur toutes les lèvres, des interrogations nombreuses, comme celle qui hante Anne, l'une des voisines de la victime.
Il y a quand même des questionnements, pas vis-à-vis de la police. Il faut arrêter d'incriminer la police, parce qu'ils font leur taf comme il faut. Ils ont attrapé ce mec il y a déjà un an. Ils l'ont relâché là, parce qu'il s'est bien tenu en prison. Ils l'ont relâché au bout de 3 mois au lieu de 9 mois. Voilà, on les remet en circulation. Il faut prendre des mesures comme en Espagne. Ils ont le bracelet, mais il faut prendre des décisions plus draconiennes. Là, les derniers temps, elle se calfeutrait dans sa maison et elle fermait les volets. Elle avait peur, oui.
La cellule de soutien psychologique mise en place ici avec l'aide du SAMU a déjà pris en charge une quarantaine d'habitants bouleversés par ce crime.
Stéphane Place à Mérignac en Gironde pour Europe 1. Un drame qui porte à 39 le nombre de féminicides en France depuis le début de l'année.
Europe 1, le 22-22-30, Romain Hoquet.
Lundi, sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer s'était dit ouvert à de nouveaux aménagements pour le baccalauréat 2021. Ce jour-là, des lycéens bloquaient une centaine d'établissements pour réclamer plus de contrôle continu dans l'attribution de ce sésame. Et ce soir, ils ont visiblement obtenu gain de cause. Le ministre de l'Éducation nationale a précisé sur France 2 les nouvelles modalités du baccalauréat.
J'entends les lycéens, on sait tous qu'ils ont vécu une année difficile, comme tout le monde. Donc c'est normal d'aménager. S'agissant de l'épreuve de philosophie, donc la demande qu'on a entendue des élèves, c'est de passer en contrôle continu. Ce que l'on va faire, c'est faire cela et même on va aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir le contrôle continu et l'épreuve terminale. Donc l'épreuve terminale continue à être organisée et on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu. On maintient l'organisation du grand oral, mais il faut des aménagements. Le professeur pourra indiquer sur un message, les domaines qui n'ont pas pu être étudiés à temps. Donc le jury n'interrogera pas sur ce qui n'a pas pu être fait. Et puis, s'agissant du baccalauréat de français, donc les élèves de première, nous maintenons les épreuves. Mais par exemple, un des aménagements, c'est qu'à l'oral, si vous êtes en baccalauréat général, vous présentez 14 textes, bien le professeur en choisit 2 et vous prenez celui des 2 pour lequel vous vous sentez le plus à l'aise.
Jean-Michel Blanquer, invité du 20h de France 2. Au Canada, les lycéens, justement, peuvent désormais se faire vacciner. C'est une première mondiale. Le pays autorise la vaccination des adolescents de plus de 12 ans avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Une évaluation est en cours aussi du côté de l'Agence européenne du médicament. Les résultats sont attendus en juin. D'ici là, 30 millions d'adultes auront déjà reçu une dose en France. Un objectif maintenu aujourd'hui par Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement qui a aussi souligné une nette amélioration de la situation sanitaire avec des indicateurs enfin à la baisse. Et même s'il faut rester évidemment très prudent, Victor Dolande, ce sont les chiffres les plus bas depuis un mois.
Oui, la tendance est bonne au niveau national. Prenons d'abord le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants. Il est de 224. Il était encore au-dessus de 400 il y a un mois. Alors, petit bémol toutefois pour la tranche d'âge 20-40 ans avec un taux d'incidence supérieur à 350. Le taux de reproduction, vous savez, c'est le nombre de personnes qu'un seul malade contamine. Il se situe aux alentours de 0,90. En dessous de 1, ça veut dire que l'épidémie recule. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et forcément, cette baisse du nombre de contaminations commence à se voir dans les hôpitaux. Le 15 avril dernier, il y avait encore 2000 admissions quotidiennes de patients Covid dans les hôpitaux français. Aujourd'hui, on est redescendu en dessous de la barre de 1500, ce qui veut dire que les services de réanimation vont eux aussi voir la pression diminuer. Il y en a un peu plus de 5500 patients actuellement, contre plus de 6000 il y a encore 10 jours. C'est encore beaucoup, certes, mais ça devrait continuer à baisser dans les prochains jours. Autant d'indicateurs au vert qui poussent les épidémiologistes à un double constat. La troisième vague est bien derrière nous, mais attention au risque de rebond épidémique si les Français relâchent trop les gestes barrières, notamment à partir du 19 mai avec la réouverture des commerces non essentiels, terrasses et lieux de culture.
Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe 1, Romain Hoquet.
C'était un 5 mai 1821. Un peu avant 18h, Napoléon Bonaparte s'éteignait à 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène, perdue dans l'Atlantique Sud, là où les Britanniques l'avaient envoyé en exil après sa dernière défaite à Waterloo. 200 ans plus tard, la France commémore l'empereur. Sous la coupole des Invalides cet après-midi, Emmanuel Macron a prononcé un discours sur ce personnage incontournable, controversé aussi. Un exercice délicat, Jean-Rémy Baudot.
Trouver les mots justes alors même que la figure de Napoléon divise. Dès le début de son discours, Emmanuel Macron a détaillé la philosophie de son approche pour cette commémoration.
Ce qui nous réunit sous cette coupole, la lutte contre l'ignorance et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Napoléon Bonaparte est une part de nous.
Alors concrètement, parler de Napoléon, je cite, sans effacer, sans nier ni renier. Emmanuel Macron a rappelé que Napoléon avait rétabli l'esclavage en 1802. Le président dénonce alors une faute, une trahison de l'esprit des Lumières. Fin de citation. Mais Emmanuel Macron a aussi loué son génie militaire ou encore son art de l'organisation. Il évoque alors une commémoration éclairée. Mais puisqu'une commémoration est aussi une manière de parler d'un personnage historique tout en parlant de soi, eh bien Emmanuel Macron a dépeint un portrait de Napoléon qui ressemble quand même très finement à la définition qu'il fait lui-même du macronisme. Je vous laisse juger.
On aime Napoléon parce que sa vie a le goût du possible, parce qu'elle est une invitation à prendre son risque, à faire confiance à l'imagination, à être pleinement soi.
Voilà, comme si à travers Napoléon, Emmanuel Macron exaltait sa propre figure d'homme politique. L'Élysée avait promis une déconstruction de la figure de Napoléon. On a assisté cet après-midi à une reconstruction macroniste de l'empereur.
Le récit de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. À Chambéry, troisième jour de procès pour Nordal Lelandais aux assises de Savoie. Aujourd'hui, les amis de la victime Arthur Noyer ont défilé à la barre. Des proches qui décrivent un homme drôle, sociable, un portrait qui n'arrange pas la défense de Nordal Lelandais. Virginie est la dernière à avoir vu Arthur, ce soir d'avril. Le jeune homme s'était fait agresser et la jeune femme était venue à son secours à la sortie d'une boîte de nuit. C'était quelques minutes seulement avant qu'Arthur ne disparaisse dans la voiture de Nordal Lelandais.
Il m'a remercié un nombre de fois incalculable. Et donc en partant, quand je lui ai dit, bah écoute, prends soin de toi, donc il est venu, il m'a fait un besoin. Ça m'a surpris, ça m'a touché, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi. Il était extrêmement gentil, ça se voyait, on a beaucoup rigolé, il avait énormément d'humour. Ça se voyait qu'il était gentil. Il était alcoolisé, oui. Ah mais je le poussais, il tombait clairement. Enfin, moi, au moment où je l'ai vu dans la ruelle, il titubait. Mais il était très calme. Il n'était pas énervé. Il n'était pas en colère de ce qui venait de se passer. Enfin, aucune agressivité dans ses propos, aucune méchanceté, aucune. Très calme, très gentil. Voilà.
Dans son état, il pouvait frapper quelqu'un.
Non. Le peu de temps que je l'ai vu, je le voyais pas agressif en fait, pas méchant, pas.
Et à votre avis, est-ce qu'il aurait pu agresser Nordal Lelandais?
Arthur aurait tapé Nordal? Non, non. Moi, j'ai vu Arthur dans l'état où il était. Et, bon, il n'aurait pas pu se battre, quoi.
Le témoignage de Virginie recueilli par Jean-Luc Boujon à Chambéry pour Europe 1. En PACA, le psychodrame politique risque de laisser des traces. Le maire de Toulon, Hubert Falco, a fait savoir qu'il quittait les Républicains. Christian Estrosi, le maire de Nice, et Martine Vassal, la présidente de la métropole ex-Marseille, pourraient faire de même. Et après la région PACA, LREM poursuit son offensive. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sera présent sur la liste de la majorité présidentielle pour les régionales dans les Hauts-de-France. Une candidature face au président sortant, Xavier Bertrand. 22h12, la suite de votre journal avec ce nouvel otage au Mali. Un journaliste français, Olivier Dubois, a été enlevé à Gao, au nord du pays, le mois dernier. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. Jean-Sébastien Soldani, ce grand connaisseur du Mali, a vraisemblablement été pris en otage le 8 avril.
C'est ce qu'Olivier Dubois lui-même affirme dans une courte vidéo assis en tailleur sous une tente. Ses mains trahissent une certaine nervosité, mais il semble en bonne santé. Il dit être détenu par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce sont des terroristes salafistes issus de la branche d'Al-Qaïda au Sahel. Il disparaît le 8 avril à Gao, il y a donc quasiment un mois, alors qu'il a prévu d'interviewer un chef djihadiste. Le responsable de Reporters sans frontières au Mali, Abdoul Thiam, assure qu'il n'y avait alors pas d'inquiétude jusqu'à la publication de cette vidéo.
Nous étions au courant effectivement que M. Dubois était porté disparu à Gao, mais nous pensions effectivement que c'était juste pour lui permettre de se mettre en sécurité. Il y avait toutes les possibilités, il y avait toutes les hypothèses. On assurait dans certains milieux qu'il n'avait pas été enlevé, mais qu'il s'est caché quelque part.
En sécurité pour assurer la confidentialité de son éventuelle interview. Mais le temps passe et c'est l'hypothèse d'un piège tendu au journaliste qui prend le dessus. Olivier Dubois collabore avec Le Point Afrique, Libération. Dans sa vidéo, il demande à sa famille, ses amis et aux autorités françaises de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire libérer.
Les précisions de Jean-Sébastien Soldaini. On a beau être un ancien président des États-Unis, cela ne donne pas tous les droits. Facebook refuse de réactiver le compte de Donald Trump. Une suspension décidée en début d'année après des messages incitant à envahir le Capitole. Une sanction qui sera toutefois réexaminée dans les 6 prochains mois, précise le conseil de surveillance de l'entreprise californienne. En tennis, l'entrée est fracassante de Rafael Nadal au Masters 1000 de Madrid. Le roi de la terre battue n'a fait qu'une bouchée de son compatriote Carlos Alcaraz. Et ce soir, en revanche, ça ne passe pas pour Benoît Paire. Le dernier Français encore en lice s'est incliné face au Grec Stefanos Tsitsipas. Une défaite 6-1-6-2 face au 5e joueur mondial. Et l'autre affiche de la soirée, c'est Chelsea, Real Madrid. Actuellement, un but pour Chelsea, zéro pour le Real Madrid. Les deux équipes s'affrontent en ce moment pour une place en finale de Ligue des Champions. Le vainqueur devra faire face à un adversaire de taille, Manchester City, qui a renversé hier soir le Paris Saint-Germain. Il est 22h15, la météo avec un printemps toujours timide. Anissa Haddadi, demain, la journée sera perturbée.
Oui, très perturbé même demain, Romane. Alors ça se commence cette nuit avec une perturbation qui arrive par l'ouest. Demain matin, donc de la Gironde jusqu'au Grand Est, en passant par le Limousin, l'Auvergne, le Poitou-Charente, le Centre-Val de Loire, la région parisienne, la Normandie et les Hauts-de-France, dans toutes ces régions, il pleut demain matin, parfois de manière soutenue. Dans l'après-midi, cette perturbation va très doucement se décaler vers le sud, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes et même jusqu'en Alsace. Là aussi, il pleut. Sur le massif central et le Val-de-Saône, nous aurons même des pluies assez importantes. Dans le sud, des Pyrénées à la Côte d'Azur, tout le long de la Méditerranée, là, le soleil se montre assez généreux. C'est encore une journée assez agréable. Et puis sur le quart nord-ouest de la Bretagne aux Hauts-de-France, le soleil revient timidement. Il va essayer de temps en temps se montrer entre deux nuages. Mais attention, on a toujours un risque d'orage sur l'île de France ou encore le centre Val-de-Loire. Les températures, elles sont fraîches encore demain avec 0 à 12 degrés le matin, 0 pour Charleville-Mézières, 8 à Paris et 12 à Nice. Et puis au meilleur de la journée, on aura une vraie différence entre le nord et le sud avec 10 degrés à Dunkerque, 12 à Lille, 13 à Paris, 16 pour Bordeaux, 20 à Valence et 25 pour Carcassonne.
Des prévisions signées Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit Stanislas Nioc-Château, le fondateur de la plateforme Doctolib où les réservations pour la vaccination explosent. 300 000 Français prennent rendez-vous chaque jour, c'est plus 50% en une semaine. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h18, on fait un point sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Romane.
Alors Wall Street était en forme en début de séance, mais l'ambiance s'est gâtée ce soir et c'est du rouge pour le Nasdaq à la clôture.
Oui, le Dow Jones gagne un peu de terrain, plus 0,28%, 34 230 points. Mais le Nasdaq, lui, cède encore 0,37%. C'est donc une nouvelle séance compliquée pour les valeurs technologiques qui sont montées très haut, qui affichent des valorisations très élevées. Apple remonte de 0,2% après sa chute hier, mais Amazon perd encore 1,2%, Facebook moins 1%, Tesla moins 0,4%. Du côté des hausses, on a General Motors qui grimpe de 4%. Le constructeur automobile a publié des résultats trimestriels solides malgré les problèmes liés à la pénurie de composants. Et puis ça monte aussi pour les pétrolières. Chevron et ExxonMobil bondissent d'environ 3%. Du côté des devises, l'euro 7,012% face au billet vert à 1,20$ environ.
Et Claire, après une séance difficile hier, l'optimisme est déjà de retour à Paris grâce à de bons résultats pour les entreprises.
Oui, on a connu un petit passage à vide hier, mais ça va nettement mieux avec un CAC 40 qui reprend 1,4% à la clôture. 6339 points. La vedette du jour à Paris, c'est Stellantis, le constructeur automobile né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler. Les résultats trimestriels sont applaudis par les investisseurs. Le titre Stellantis grimpe de 7% ce soir.
Les performances trimestrielles d'AXA, en revanche, ont été accueillies plus timidement par le marché.
Oui, AXA gagne 0,3% après ses résultats. Le groupe a confirmé son objectif de résultat annuel pour sa division AXA XL, spécialisée dans l'assurance dommage aux entreprises, division malmenée l'an dernier avec la crise sanitaire. Et puis BNP Paribas progresse de 2,5%. La banque est soutenue ce soir par plusieurs notes d'analystes. Les marchés européens ont repris des couleurs aujourd'hui. Francfort bondit de plus de 2%, plus 1,7% pour Londres, plus 1,6% pour Madrid. Milan gagne 2%. Et à Paris, le CAC 40 avance de 1,4%, 6339 points.
Voilà un tour d'horizon complet. Merci Claire Lemaître de boursier.com. Et à 22h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview écho avec vous Emmanuel Duteil.
Bonsoir Stanislas Nioc-Château.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur de Doctolib, c'est bien évidemment l'une des principales plateformes pour pouvoir prendre des rendez-vous pour se faire vacciner. Et là, ce que vous voyez, hein, Stanislas Nioc-Château, c'est que très très clairement, c'est en train d'accélérer.
Alors oui, il y a eu 1,9 million de Français qui ont pris un rendez-vous de vaccination sur les 7 derniers jours. C'est 50% de plus que la semaine précédente. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 000 Français chaque jour qui prennent leurs deux rendez-vous de vaccination sur Doctolib.
Alors ça veut dire qu'il y a une accélération et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de rendez-vous disponibles.
Exactement, en fait, chaque jour, il y a à peu près 300 à 350 000 rendez-vous de vaccination disponibles et donc 300 à 350 000 Français qui prennent leur rendez-vous. Il y a quatre régions françaises qui tirent cette accélération des rendez-vous, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont presque doublé leur nombre de rendez-vous de vaccination sur les 7 derniers jours.
Est-ce que ça s'explique par le fait que, grosso modo, le gouvernement a dit « Allez, c'est du déclaratif maintenant pour les moins de 55 ans qui ont un risque de comorbidité, donc beaucoup de gens s'engouffreraient un petit peu dans cette brèche ?»
Non, alors ça s'explique majoritairement par l'augmentation des doses Pfizer reçues par les centres. La France reçoit un peu plus de 2,5 millions de doses Pfizer par semaine, et donc les centres ont mis des rendez-vous disponibles liés à ces doses. Ça s'explique également un peu par cette ouverture plus large aux moins de 55 ans, comme vous l'avez dit, avec une comorbidité. Ces moins de 55 ans représentaient 25% des rendez-vous il y a une semaine. Ils représentent deux tiers des rendez-vous sur les 3-4 derniers jours.
Alors, est-ce que malgré tout, depuis que l'on sait que le gouvernement devrait ouvrir la vaccination pour tout le monde à partir du 15 juin, est-ce que vous avez déjà des rendez-vous, des gens qui veulent se faire vacciner ?
Non, très peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les centres de vaccination, les 1800 centres en France qui représentent 90% de la vaccination, en fait, ils ont une visibilité à 15 jours, 3 semaines maximum. Donc, ils donnent des rendez-vous à 15 jours, 3 semaines maximum. Il y a quelques rendez-vous disponibles sur le mois de juin, mais c'est très marginal. Ils reçoivent les doses.
Mais ça, c'est une sacrée piste d'amélioration, c'est-à-dire d'être capable
Exactement.
D'avoir plus de visibilité. Parce que je crois déjà que ça s'est un petit peu amélioré. Maintenant, ils ont une douzaine de jours de visibilité contre 8-9 avant. Et je crois que ça a expliqué une partie de la hausse de la vaccination en France pour cette prise de rendez-vous. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut accélérer. Il faut qu'on sache combien on a vraiment de doses qui vont arriver de façon à pouvoir ouvrir des rendez-vous dans les mois à venir et les semaines à venir.
Exactement, de toutes les manières, l'approvisionnement en doses, ça reste le cœur de la bataille pour vacciner plus de gens. Et puis le fait de donner de la visibilité aux Français, ça passera par le fait que les centres aient de la visibilité eux-mêmes sur les doses qu'ils auront au mois de juin et voire même au mois de juillet, demain. Et donc oui, aujourd'hui, si vous prenez votre rendez-vous, vous allez prendre un rendez-vous dans les 8 à 10 jours à venir. Et on espère que dans quelques semaines, vous puissiez prendre rendez-vous dans 15-20 jours. Mais ça dépend uniquement de l'approvisionnement en doses et de la visibilité qu'on a sur l'approvisionnement en doses.
Mais des doses, on n'en manque pas à ce point-là. Quand on regarde par exemple AstraZeneca, où le taux d'utilisation, semble-t-il, des doses est aux alentours de 70-75%. Vous la voyez, vous, cette défiance sur l'AstraZeneca en France qui n'existe pas, par exemple en Allemagne, où vous êtes aussi présent ?
Alors oui, sur AstraZeneca, l'adhésion, elle est moins bonne. Vous l'avez dit, 70% d'utilisation des doses de vaccins AstraZeneca. Ce n'est pas du tout la même chose sur Pfizer et Moderna, où là, on est à 93-94%. Donc, les centres sont en flux tendu. C'est quasi impossible de faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Mais oui, il y a de la disponibilité pour se faire vacciner avec AstraZeneca en ville, dans les cabinets de médecins généralistes ou les pharmacies notamment.
Pour le moment, vous confirmez qu'il y a une grosse désaffection pour l'AstraZeneca.
Alors, il y a moins de rendez-vous aujourd'hui. Il y a à peu près 40 à 50 000 rendez-vous avec AstraZeneca qui sont pris chaque jour, alors qu'on pourrait être à entre 100 et 150 000 par jour. Donc oui, il y a moins de rendez-vous qui sont pris sur AstraZeneca par rapport à Pfizer et Moderna. Aujourd'hui, sur Pfizer et Moderna, la France reçoit à peu près 3 millions de doses de vaccins par semaine qui sont administrées dans les centres. Ils sont tous pris. 300 000 Français prennent un rendez-vous chaque jour pour aller se faire vacciner dans les centres. Très difficile de faire mieux. Il faudrait avoir plus de doses Pfizer et Moderna pour pouvoir vacciner deux fois plus que ce qu'on fait. Avec AstraZeneca, comme vous le savez, c'est les pharmacies et les cabinets qui vaccinent.
Et les plus de 55 ans uniquement pour le moment, sauf s'il y a une dérogation qui va être mise en place, qui a été dit notamment hier matin par le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur l'antenne d'Europe 1. Il y a un autre axe important de développement pour pouvoir vacciner plus, c'est d'y aller un peu plus franchement le week-end, parce que vous nous dites on est aux alentours de 300 000, un peu au-dessus de 300 000 chaque jour sur ce que vous voyez, vous, chez Doctolib. Allez, c'est même pas deux fois moins le week-end.
Oui, alors les jours fériés et le week-end, globalement, on vaccine entre deux et trois fois moins. Et donc, bien évidemment, vacciner plus les jours fériés et le week-end, notamment dans les semaines à venir, où on sait qu'on va avoir le 8 mai et le pont de l'Ascension avec jeudi et vendredi prochain. Oui, c'est une piste pour pouvoir accélérer encore la vaccination.
Comment on peut l'améliorer? Est-ce que les centres sont ouverts? Est-ce que c'est quoi le problème? Pourquoi on ne vaccine pas le week-end d'après vous? Parce qu'on n'a pas les personnels? Parce qu'on n'a pas les centres? Parce qu'on n'a pas les doses?
Oui, et écoutez, c'est plutôt aux régions et aux centres de demander qu'à nous, ça ne change rien pour nous d'être ouvert le week-end ou pas. Et donc, je pense que c'est plutôt une question de personnel qui sont déjà très sollicités depuis plusieurs mois, même depuis 12 mois, le début de cette crise sanitaire. Donc, je dirais que c'est plutôt une question de pression sur le personnel soignant qui font un travail exceptionnel. Hein, il faut peut-être le rappeler, il y a maintenant quasi 25% des Français vaccinés, 23 millions de doses qui ont été injectées depuis le 14 janvier. Donc, ça reste une performance exceptionnelle. Hein. On est dans les 10 pays du monde qui ont vacciné plus. Ça reste une mobilisation très forte des soignants et des centres.
Après, quand on est 6e puissance mondiale, encore heureux qu'on est à peu près dans les 10 premiers quand même pour réussir à vacciner.
Oui, mais vous savez, on a vacciné 3 fois plus de patients que le reste du monde. Et bien sûr, le défi de la vaccination, ce n'est pas un défi national, hein, c'est un défi mondial. Il y a plein de pays dans le monde qui sont des grands pays qui ont vacciné beaucoup moins que nous et peut-être qu'un jour, il faudra aller les succéder.
Eh bien, on suivra tout cela. En tout cas, un grand merci Stanislas Nioque-Château. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Doctolib. Un grand merci d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve demain soir, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Et on vous retrouve aussi demain, 13h-14h pour La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous recevrez le cofondateur d'Ornicar, l'auto-école en ligne qui veut devenir le leader mondial de la sécurité routière. À demain, Emmanuel. Et à 22h28, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain, avec d'abord la une de Libération et ce portrait d'Olivier Dubois, le journaliste qui a été enlevé dans le nord du Mali. Olivier Dubois, qui était correspondant du journal Libération, le reporter de 46 ans, a été enlevé par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, titre Le Quotidien. À la une du Figaro, cette interview de Xavier Bertrand, le patron du Nord et aussi candidat à l'élection présidentielle de 2022, qui réagit au quoi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui dit, je cite, « Les apprentis sorciers du macronisme déroulent le tapis rouge à Marine Le Pen ». Et dans cet entretien au Figaro, le candidat à la présidentielle dénonce les manœuvres politiques du chef de l'État. Ces manœuvres, elles sont aussi en une de l'opinion régionale. Macron joue la pagaille. Justement, les divisions internes aux Républicains font dire aux marcheurs que la séquence est bénéfique au chef de l'État. Oui, mais à quel prix, s'interroge le journal. Et ce dessin où l'on voit justement Emmanuel Macron déguisé en Napoléon pour le bicentenaire de la mort de l'empereur, qui tire des boulets de canon en criant au suivant. Et le suivant, c'est Éric Dupond-Moretti, qui est aussi candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France. À la une de Ouest-France, il y a un tout autre sujet, c'est le rêve d'indépendance à l'épreuve des urnes en Écosse, puisque demain, les Écossais votent pour renouveler leur Parlement et la première ministre indépendantiste espère justement une majorité confortée pour pouvoir organiser un référendum sur l'indépendance. Mais quitter le Royaume-Uni, nous explique Ouest-France, c'est un chemin qui s'annonce très long et plein d'obstacles. Avant de retrouver Olivier Delacroix, on s'arrête au stade de Stamford Bridge où Chelsea affronte à domicile le Real Madrid. Demi-finale retour de la Ligue des Champions. Un point sur le score et c'est toujours Chelsea qui mène 1-0. Alors qui va rejoindre Manchester City au final? On fera un prochain point sur la rencontre dans une demi-heure. Car pour l'heure, il est tout juste 22h30. Vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne et Olivier Delacroix qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, très très bien, écoutez. Et vous-même?
Écoutez, très bien Romain, on est en place pour, comme d'habitude, passer ces 2h30 avec toute cette communauté de la Libre Antenne.
Le 39-21, bien sûr, avec vous jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et puis vous Romain, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash.
Exactement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.